Bonjour à tous. Aujourd'hui, Radio Big Eye se trouve chez les Compagnons d'Emmaüs de Saint-Aignan pour vous faire partager une exposition photo basée sur l'expulsion de 13 familles roms à Montreuil en 2016. Pour parler de cette histoire, nous sommes en présence du photographe Gilles Waliuzinski, de l'autrice Juliette Ketting et de Patrick Fraîche, représentant de la Ligue des droits de l'homme. Il y a aussi un livre intitulé À la rue, distribué par les éditions Lire des marges, qui marque aussi ce difficile événement. Alors là, je suis entouré, je suis dans un corps de ferme des compagnons d'Emmaüs. Je suis entouré d'une trentaine de magnifiques photos, mais effectivement, à la radio, c'est pas facile de vous faire partager des photos. Donc c'est donc Erwan, un des co-responsables de la communauté, qui va prendre la parole pour nous faire plus découvrir les auteurs-acteurs de cette histoire de vie.
Alors, Gilles, donc effectivement, il y a des photos, il y a aussi un livre, Juliette. Autant les photos sont pleines de couleurs, autant dans le livre, j'ai vu beaucoup de colère. Et moi, ça m'a évoqué les coups de gueule de l'abbé Pierre. Voilà, et j'avais cette question, c'est Juliette, êtes-vous toujours en colère?
Je suis très en colère. Je suis très en colère lorsque je vois des enfants à la rue, des enfants qui se retrouvent à la rue après une expulsion sans avoir prévu un relogement possible pour eux, et des enfants qui sont maintenus à la rue pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Oui, non, ma colère ne faiblit pas. Il est vrai que dans ce texte que j'ai écrit, dans ce livre À la rue, il y a le sentiment de colère qui domine, c'est pas le seul sentiment exprimé, mais il est fondamentalement là, effectivement.
Et Gilles, j'imagine aussi, vous avez aussi cette colère, puisque vous avez été un témoin direct de ces expulsions. En même temps, on sent quelque part une profonde douceur. Il y a beaucoup de portraits d'enfants. Voilà, je voulais savoir, vous, comment vous arrivez, vous avez pu gérer ces deux sentiments, quelque part, cette fraîcheur de l'enfance, cette douceur des enfants, cette couleur qui domine dans vos photos et en même temps la détresse humaine qui était là.
Eh bien, c'est sûr que dès le premier soir où j'ai rencontré ces familles, à 10 h du soir devant la mairie de Montreuil, la première chose que j'ai vue, c'est des enfants, des tout petits qui jouaient sur le trottoir devant la mairie. Et dès ce premier soir, en fait, je les ai vus, mais j'ai parlé avec eux et j'ai un peu joué avec eux. Et les enfants adorent être photographiés, en fait. Donc, sur toutes les photos, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants photographiés et ils font des sourires, ils sont toujours. Enfin, j'ai été aussi surpris par leur force de vivre, leur bonheur d'être là, en fait, malgré les conditions qui leur sont faites. Voilà.
Je crois que c'est vous, Gilles, qui avez alerté, hein, Juliette. Comment ça s'est passé, votre rencontre et le déclenchement de...
Oui, alors ce premier soir, j'ai donc vu ces 13 familles avec leurs enfants devant la mairie. Et il y avait quelques personnes qui étaient là aussi pour les aider. Donc j'ai posé des questions, je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont expliqué que les familles avaient été expulsées du lieu où elles vivaient par la police et assez brutalement. Voilà. Donc j'ai téléphoné à Juliette en fait. Et dès le lendemain, nous avons décidé de retourner voir tout le monde et nous avons commencé à travailler avec eux en fait. Voilà.
Juliette, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la question des Roms ou Montreuil, etc., peut-être juste nous redonner quelques éléments de contexte, expliquer qui sont ces Roms, d'où ils viennent, quelle est la situation à Montreuil et aux alentours de Paris. Enfin.
Alors, ces familles viennent de Roumanie, principalement d'une ville qui s'appelle Sibiu. Et ce sont des familles qui sont sédentaires. Souvent, on pense que les Roms sont tous itinérants, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des familles sédentaires qui vivent à Sibiu et qui vivaient à Montreuil, qui vivent toujours à Montreuil depuis maintenant plusieurs décennies, puisque en 2016, lorsque nous les avons nous rencontrées, en fait, elles étaient déjà installées à Montreuil depuis une dizaine d'années. Et les habitants et les habitantes qui étaient autour de ces familles les connaissaient déjà, puisqu'elles avaient déjà connu des périodes de vie à la rue et des relogements provisoires dans des bâtiments occupés. Donc ce sont des familles bien connues sur la ville de Montreuil. Beaucoup d'enfants sont nés à l'hôpital de Montreuil. Et elles sont donc inscrites vraiment dans l'histoire de cette ville, parmi la population de cette ville. Voilà, alors, elles n'ont pas du tout envie d'en partir, hein, c'est chez eux, chez elles. Elles aimeraient pouvoir aussi habiter de manière pérenne cette ville qu'elles ont choisie, un peu sans doute par hasard, hein, quand elles sont arrivées en France, lorsqu'elles ont quitté la Roumanie, parce que ce pays d'Europe est un pays extrêmement pauvre, dans lequel elles ne trouvaient pas les moyens de leur subsistance. Et c'est un pays aussi qui est marqué par une très grande discrimination par rapport à la communauté rome. Et en fait, c'est des conditions de vie et une discrimination qui sont, je crois, encore plus dures que celles qu'elles connaissent ici en France.
À Montreuil, on estime le nombre des Roms à quel... Vous savez, avez-vous une idée ou...
Alors, j'avoue que je ne sais pas et je crois que cette population est en diminution. Mmh. Depuis 2016, où je suis particulièrement sensibilisée à la vie des familles roms dans cette ville, j'ai observé que de nombreux squats étaient évacués. Des bidonvilles étaient fermés. Alors on peut se dire, fermer un bidonville, ben c'est une bonne chose parce que les conditions de vie en bidonville sont loin d'être idéales. Au contraire, elles sont très difficiles. Sauf qu'il n'y a pas ou très peu de relogements pérennes prévus pour les familles. Donc de ce fait, il y a un départ, un effacement progressif des familles roms. Mais on parle de Montreuil, mais je pourrais dire de toute l'Île-de-France, hein, de toute la région parisienne. C'est pas du tout limité à Montreuil. Il se trouve que nous habitons Montreuil, donc nous sommes aux premières loges, des témoins de ce qui s'y passe. Mais en 2016, lorsque ces familles ont été expulsées, elles étaient 50 personnes, une vingtaine d'enfants. Mais les chiffres montrent, les chiffres des associations qui font le compte des expulsions évalue à 10 000 personnes évacuées de logements précaires comme ça en France. Donc 50, 10 000, on voit que la question du logement de ces familles en très grande précarité est loin de concerner uniquement Montreuil, est beaucoup plus générale et beaucoup plus globale. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui avec ce mouvement d'urbanisation intense que connaît Paris, mais surtout les régions, les villes limitrophes, hein, qui étaient autrefois des villes ouvrières où il y avait des industries, où il y avait des ateliers qui ne fonctionnent plus en tant que tels, mais qui ont servi à un moment d'espace de vie pour des familles comme ça en précarité de logement. Eh bien, ces ateliers sont progressivement rasés. Les terrains sont attribués à la construction immobilière, voilà, et d'immeubles qui ne sont pas évidemment destinés à loger les familles concernées. Voilà. Donc progressivement, il y a un effacement de ces familles intensifié par évidemment la période des Jeux Olympiques où chacun sait que toutes ces populations un peu en marge doivent partir pour que tout soit bien propre et bien lisse pour accueillir les Jeux Olympiques.
Une question, Gilles, qui vous êtes engagé aussi auprès des Roms. Est-ce que, quelque part, cet engagement, ce n'est pas un combat qui était perdu d'avance, dans le sens où il y a effectivement la question du logement, l'hébergement de ces familles, mais il y avait aussi la question de l'autorisation du travail, c'est-à-dire qu'on avait des familles qui étaient installées à Montreuil qui n'avaient pas d'autorisation de travail. Et bon, forcément, il n'y a que l'État qui peut donner une autorisation de travail. Est-ce que sans justement ce l'aval de l'État, quelque part, on n'est pas dans une impasse ?
Ben, oui, probablement. Je ne sais pas très bien ce que c'est que cette autorisation de travail dont vous parlez, parce que, en fait, ces familles, d'abord, viennent de Roumanie, un pays européen. La législation, en fait, impose même à ces familles d'avoir effectivement un minimum de revenus qui leur permet de demander un permis de séjour, en fait. Car bien qu'ils soient européens, ils sont contraints d'avoir un permis de séjour. Et je pense que les travaux qu'ils peuvent faire, compte tenu de leur situation, sont des travaux qui ne sont pas reconnus par l'État, qui sont des travaux marginaux. La récupération d'objets, la revente de ces objets, par exemple, ou la ferraille, des choses comme ça, sont considérés comme des travaux noirs, en fait. Voilà.
Donc, parce qu'il me semble bien, alors, peut-être ça remonte à un peu plus loin, mais c'est qu'à l'époque, l'État ne reconnaissait pas aux Roms la possibilité de travailler en France. Il leur reconnaissait le droit de circuler en France comme membre de l'Europe, mais qu'il y avait un peu un traitement à plusieurs étages entre, par exemple, les Roumains et les Roms. Juliette ?
Alors, en fait, lorsque la Roumanie est entrée dans la communauté européenne, c'est vrai qu'il y a eu une période de temps où les Roumains n'avaient pas l'autorisation de travailler à l'égal des autres Européens. Mais cette législation a changé et maintenant ils ont tout à fait le droit de travailler exactement comme les autres. La distinction entre Roms et Roumains ne peut pas être établie comme ça. En fait, on a des Roumains. Enfin, c'est le fait d'appartenir à des familles Roms, ce n'est pas une nationalité, c'est appartenir à un peuple en fait qui a sa propre histoire, sa propre langue. Mais s'il y a des discriminations à l'emploi entre les Roms et les autres, c'est pas lié à l'Europe, là, c'est lié à une situation de discrimination à l'égard de ces personnes parce qu'elles appartiennent au peuple Rom. Mmh. Donc c'est des discriminations comme il peut y avoir des discriminations pour d'autres minorités.
En vous lisant, Juliette, j'ai compris que il me semble pour vous l'important, c'est que chaque citoyen doit résister. C'est vraiment l'acte de résistance qui fait la différence quelque part, quel que soit le résultat, parce qu'on n'est pas maître de tout, malheureusement. Et voilà. Mais en tout cas, en s'inscrivant dans une résistance. On existe et donc le fait de ne pas accepter une politique humaine est finalement quelque chose qui sauve un peu cette histoire, enfin en tout cas pour vous. Et je voulais savoir, vous Patrick, en tant que Ligue des droits de l'homme, comment vous situez aujourd'hui cet acte de résistance dans notre société?
La Ligue des droits de l'homme a plus de 100 ans maintenant. Elle s'est engagée au moment de l'affaire Dreyfus. Et en fait, la politique ou l'axe d'action de la Ligue des droits de l'homme, c'est l'accès au droit, l'égalité de l'accès au droit. Alors une discrimination, c'est justement un refus ou un critère de non-accès, de non-égalité. Alors, discrimination, ça peut être, comme le disait Juliette, en fonction de son origine, en fonction de son sexe, en fonction de sa couleur. Donc, la Ligue des droits de l'homme est toujours en lutte contre les discriminations. Alors, pourquoi les Roms aussi aujourd'hui, plus particulièrement ? Parce que, au niveau de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il est reconnu, grâce à des indicateurs tout à fait sérieux, que les Roms constitue le degré le plus élevé de rejet dans la société. Alors que musulmans, africains, sont acceptés, et c'est bien à plus de 80% dans la société française, les Roms sont à 40% d'acceptation. Ce qui conduit à, et ce sont les termes de la Commission, à un racisme banalisé. Alors bien sûr, c'est une situation qui est presque banale et qui est couverte souvent par d'autres aspects. Aujourd'hui, on parle beaucoup de migrants, on parle beaucoup des problèmes liés à l'immigration. Mais les Roms sont un marqueur du rejet de la société, d'un refus de la différence. Donc, il est tout à fait normal que la Ligue des droits de l'homme vienne se joindre au combat des associations locales. Je dirais que lorsqu'en plus, c'est servi par un travail littéraire, un travail photographique, un travail artistique, on est forcément partisans de cette lutte.
Alors là, c'est les Emmaüsiens qui parlent. Emmaüs, c'est le chemin où les disciples retrouvent l'espoir. Face à cette situation, et que ce soit dans les photos ou dans votre texte, y a-t-il de l'espoir, ou est-ce que pour vous, justement, c'est quelque part une histoire désespérée? Ou est-ce que vous avez la sensation encore d'avoir trouvé de l'espoir, ou est-ce que vous avez encore de l'espoir? Juliette.
Oui, bien sûr. Tout simplement parce que la présence de familles roms, de roms en France, elle est très ancienne. Elle est très ancienne et en fait, on parle des roms en général comme si, un peu trop en général d'ailleurs. Il y a des familles roms françaises qui sont françaises depuis très très longtemps. Vous avez parmi vos proches ou les personnes que vous connaissez des gens qui sont roms et vous ne le savez pas, qui sont parfaitement dans la société comme chacun et chacune d'entre nous. Donc ces familles roms dont on parle aujourd'hui, qui viennent de la Roumanie et qui sont venues en France après la chute du mur de Berlin, elles vont, je l'espère et j'y crois, progressivement être parmi nous, avec nous, sans subir autant de discrimination, parce que non seulement elles sont roms, mais aussi elles sont étrangères. Et l'espoir que j'ai, c'est que ça va prendre du temps, ça prend trop longtemps en vérité, ça prend vraiment trop longtemps, mais on ne peut pas arrêter en fait ce processus d'installation et puis de se mêler aux gens qui sont là et de faire partie de la population à l'égal des autres habitants et habitantes du pays.
Merci Juliette. Gilles ?
Oui, ben je crois que en faisant des photos, ça exprime l'espoir que j'ai en fait. Si je fais des photos, c'est bien, c'est la preuve de cet espoir. Et puis, je sais pas, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, je crois que c'est important. Les Roms, ils ont été non seulement discriminés, mais ils ont fait partie des Tziganes qui ont été internés dans les camps de concentration et décimés aussi, comme les populations juives. Donc, et ça, les Français l'oublient un peu vite. Et un jour, à Montreuil, devant la mairie, une femme est passée, voyant les familles établies sur la place, et a quand même crié assez fort pour que tout le monde l'entende, « Hitler n'a pas fini le travail ». Voilà.
Ça, c'est pas l'espoir, ça. Non. La question, c'était l'espoir.
je voulais dire ça aussi.
Oui. Très bien. Patrick, il y a une loi actuellement sur l'immigration contre laquelle un certain nombre de grandes associations se révoltent et s'indignent. Est-ce que vous avez l'espoir dans notre société actuelle? que effectivement on puisse véritablement s'inscrire comme une société d'accueil. L'immigration est, enfin, nous à Emmaüs on le pense, est un fait, et on doit plutôt travailler à accueillir et à intégrer les personnes plutôt que de s'escrimer à trouver des moyens pour les rejeter. Mais est-ce que vous pensez effectivement dans notre société cela possible, et quels moyens d'action pouvons-nous avoir pour mieux sensibiliser les gens à cette dimension nécessaire d'accueil?
Bon, vous avez dit déjà beaucoup de choses. Je crois que on n'a pas besoin forcément d'espoir, on a besoin de conviction. La conviction, comme vous l'avez dit, l'immigration est un fait. C'est quelque chose qui fait qu'on est là aussi. Hein. Nous sommes tous Africains, en fin de compte. Donc, la question n'est pas une question d'espoir. La question, c'est l'action, c'est la décision, c'est la volonté. On est confronté, Juliette le dit dans son livre, à un mur. Alors ce mur, il a tendance à croître de plus en plus. Eh bien tant pis, il faut être plus nombreux, plus tenaces.
Il faut savoir de quel camp on est, Patrick.
Oui, je crois que la question était sur l'espoir. Bien entendu, on est persuadé, d'abord on est persuadé d'avoir raison. On est confronté à des politiques qui sont très courtes vues, qui sont politiciennes, comme on dit. Je pense qu'on a une vision, on dit souvent qu'on a une vision humaniste. Oui, c'est vrai, mais on a surtout une vision plus réaliste. Il est complètement irréaliste de penser que c'est avec des murs, avec des barbelés, qu'on va empêcher des gens qui ont tout perdu de venir chez nous. Donc, oui, moi, j'ai de l'espoir parce que je vois, il y a beaucoup d'associations. Et en fin de compte, plus en face ça se durcit, plus le sentiment que nous devons aussi nous durcir se développe. Et on le verra dimanche prochain à La Rochelle. On le verra sans doute aussi le 21 à Saintes ou à Rochefort. Je crois que vous avez aimé 2023, vous allez adorer 2024.
Merci beaucoup. Alors moi, je vais peut-être apporter un petit mot de conclusion au nom de la communauté Emmaüs. Donc merci Juliette, merci Gilles et merci Patrick d'avoir permis à cette exposition d'exister et aux visiteurs d'avoir découvert cette histoire. Pour nous, c'était important parce que cette exposition a lieu dans une nouvelle salle d'exposition qu'on a voulu. L'idée étant qu'Emmaüs n'est pas simplement un lieu de bric-à-brac et de vente, mais aussi un lieu de pédagogie et de sensibilisation des personnes. Et donc, avec cette exposition, c'est une première, une nouvelle salle de sensibilisation à Saint-Agnan, au sein de la communauté, et avec effectivement des très belles photos et un beau livre pour ouvrir, j'espère, tout plein d'autres expositions qui apporteront leur petite pierre pour rendre notre monde meilleur. Voilà, merci beaucoup à tous les trois.
Merci à vous de nous accueillir. On sait que cette exposition n'a pas été bien accueillie partout. Donc, pour nous, c'est tout à fait non seulement une joie, un honneur, mais aussi le sentiment de se trouver au bon endroit pour nos photos et nos textes. Et donc, merci beaucoup à la communauté d'Emmaüs Saint-Agnan pour son accueil si chaleureux. Et puis, merci à la Ligue des droits de l'homme qui a aussi permis que cette exposition puisse avoir lieu.
Pour ceux qui n'auraient pas pu voir l'exposition chez Emmaüs, vous pourrez au printemps la retrouver au bar associatif de l'Abigail à Marennes, au mois d'avril, on vous précisera les dates en temps voulu. Bon, ben, on se quitte maintenant en musique.